Voilà, j'aimerais juste, le titre de mon message serait Maître ou esclave. Voilà le titre que je donnerais si je devais donner un titre à ce message. Et en fait, je commencerai en disant que fondamentalement, et je ne vous surprendrai pas en disant ça, j'espère, en tout cas, fondamentalement, l'homme est esclave. Parce que on est esclave de tout un tas de choses, n'est-ce pas? Pas seulement du péché. Je vois tout de suite que vous pensez spirituel, c'est très bien, mais on est esclave de tout un tas de choses. On est esclave de nos limites, on est esclave de notre corps, on est esclave des conditions. On n'a pas choisi le milieu dans lequel on est né. On n'a pas choisi l'époque à laquelle on est né. Et c'est tout un tas de choses qui nous sont imposées. Et on doit faire avec. On doit vivre toute notre vie avec des choses qui nous tombent dessus. Ce qui fait que fondamentalement, nous sommes esclaves dans plein de domaines. Mais ce que l'homme fait souvent, c'est qu'il refuse de se considérer comme un esclave. C'est-à-dire, il essaye, par tous les moyens, de devenir maître, de dominer, de réussir à surpasser les circonstances. Dans un sens, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas forcément une mauvaise chose dans certains domaines, certaines situations. Même Dieu a dit à Caïn, si vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il a dit, le péché couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Et c'est une réalité, il n'y a personne ici qui peut dire que le péché ne couche pas à la porte ou n'a pas couché à la porte de sa vie. Parce que vous savez tous ce que ça veut dire, on comprend très très bien ce que ça veut dire. Et ce que Dieu a dit à Caïn, c'est toi domine sur lui. Parce que Dieu savait que l'humanité avait choisi de rejeter Dieu. Et parce que nous avons décidé en tant qu'êtres humains de rejeter Dieu, et nous aurions fait la même chose qu'Adam et Ève. Mais parce que nous avons décidé de rejeter Dieu, eh bien, nous sommes sous la domination de tout un tas d'influences, de tout un tas de puissances. Et le message de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était domine sur ces puissances. Domine sur ce qui domine sur toi. Essaye d'être maître. Et je te donne des moyens pour le devenir. Mais les hommes cherchent constamment à maîtriser les situations. Ils cherchent à dominer, à réussir, à surmonter. Vous voyez ça dans le domaine de la médecine, de la maladie. On est victime de la maladie, n'est-ce pas? Elle nous tombe dessus et l'humanité est marquée par la maladie. On ne peut pas vivre de sa naissance à sa mort sans avoir connu la maladie. Donc les hommes se sont dit, on va dominer la maladie. C'est louable, c'est remarquable. Il y a eu les recherches, les progrès de la médecine. Mais le problème, c'est que les progrès de la médecine ont créé aussi des nouvelles maladies. Et finalement, alors qu'on a pensé arriver à dominer les choses, eh bien, on se sent toujours dominé par la souffrance, par la maladie. Et il y a d'autres problèmes économiques qui viennent se greffer à ce genre de situation. Et voilà que l'humanité qui essayait de manière louable à dominer ce qui l'a dominé, eh bien, se trouve à nouveau esclave. Et on ne sort pas de ce processus-là. La technologie s'est développée beaucoup pour essayer d'améliorer les conditions des êtres humains. Et ça a marché. Les technosciences ont permis des exploits extraordinaires. Mais le problème, c'est qu'en acquérant une certaine liberté, n'est-ce pas? Eh bien, on s'est rendu esclave de nouveaux problèmes. Problème de la pollution. Les problèmes qui sont liés aussi à tout ce développement démesuré de l'industrie, de la technologie. On développe les ordinateurs, l'informatique, n'est-ce pas? Et puis, ça ouvre la porte à de grands problèmes qui font que finalement, ce qu'on était censé utiliser pour dominer ou pour réussir à surmonter l'esclavage, eh bien, nous rend esclaves davantage. Et c'était le cas du peuple d'Israël. Ils avaient compris qu'ils étaient dominés par le péché. C'est pour ça qu'ils avaient recours à Dieu, parce que Dieu leur avait dit, voilà, je vous donne mes lois, je vous donne mes commandements, je vous donne mes instructions, et si vous marchez selon mes lois, eh bien vous serez heureux, parce que vous aurez la paix à l'intérieur, et parce que vous serez un peuple béni. Ils ont cru ça et ils ont appliqué cela pendant un temps, mais à chaque fois, ils trouvaient que c'était difficile d'être soumis à la loi de Dieu. Et donc, ils ont voulu s'en libérer et ils ont voulu dominer Dieu en se libérant de Dieu. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ce qu'on observe dans notre société n'est que le reflet de ce qui s'est toujours produit. Les hommes veulent se libérer de Dieu, ils veulent se libérer de la notion de Dieu, simplement en déclarant officiellement Dieu n'existe pas. Mais on ne se libère pas d'un problème juste en disant « il n'existe pas ». On ne se libère pas d'une puissance juste en disant « elle n'existe pas ». Et le peuple d'Israël a voulu se libérer de Dieu. Et à chaque fois qu'il voulait se libérer de Dieu, eh bien, il y avait des choses qui se produisaient, commençaient à se détériorer. Tout ça qu'il est très facile pour nous, et de toute façon on a l'évidence quotidiennement à la télévision qui nous montre ce que c'est vrai, eh bien on n'a aucun problème à savoir que la société va se dégrader et se dégrade de jour en jour parce qu'il y a un rejet fondamental de Dieu. Et je vais prendre, ne tournez pas nécessairement parce qu'on va voir un autre passage plus tard, mais je vais prendre l'exemple du livre de Joël, peut-être un livre que vous lisez pas beaucoup dans l'Ancien Testament. Mais là, il est question, dès le début de ce livre du prophète Joël, il est question de l'état du peuple d'Israël. Et il est dit que les sauterelles, n'est-ce pas, et tout un tas d'animaux semblables à des sauterelles sont venus dévaster le pays. Et le peuple se trouve dans un état de désespoir parce que tout a été dévoré. Et ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on rejette Dieu, eh bien c'est exactement le processus qui va se produire. C'est que ce qui est bon, ce que vous avez produit de bon, ce que vous aviez de bon dans votre enfance, n'est-ce pas, ce qui a poussé naturellement sur les arbres, toute l'innocence de votre enfance, tous les bons moments de votre enfance, tous les bons moments que vous pouvez vous souvenir de votre vie, toutes les bonnes choses que vous avez connues, eh bien, vont être dévorées par les sauterelles. Bien sûr, ce ne sera pas des sauterelles physiques, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Vous allez voir que votre enfance, votre adolescence, les bons moments, les choses que vous avez acquises par vous-même, qui étaient des choses satisfaisantes, eh bien, sont rongées, sont dévorées en l'espace quelquefois de quelques minutes par la situation, par le péché, par le fait d'avoir abandonné Dieu. Mais il y a une solution à ça, et c'est à ça que je voulais venir. C'est que l'homme, lorsqu'il se reconnaît esclave, lorsqu'il se reconnaît dominé par le péché, eh bien, il peut revenir à Dieu. Mais c'est la condition pour pouvoir revenir à Dieu. La condition, c'est de pouvoir dire, je reconnais mon état d'esclave. Non, je ne suis pas maître. Non, je n'arrive pas à dominer, je n'arrive pas à surmonter ces problèmes. Et si Caïn avait pu dire à Dieu, je n'y arriverai pas, tu me demandes de dominer sur le péché, mais moi je n'y arriverai pas, eh bien je crois que la destinée de Caïn aurait été une bien meilleure destinée que celle qu'il a connue. Mais je pense qu'il a dû essayer toute sa vie de dominer en se rappelant cette parole de Dieu. Et combien de gens essayent de dominer ce qui les domine, en disant « si j'arrive à surmonter ça par moi-même, je serai maître de mon corps, je serai maître de mes circonstances ». Et ils essayent par tous les efforts, ils essayent en appliquant la loi, ils essayent de faire plaisir à Dieu, et disent « si j'arrive à faire plaisir à Dieu, alors j'aurai la paix intérieure ». Mais ils n'y arrivent pas. Ils essayent de dominer leur maître. Ils essayent de prendre la position de maître. Et le message de l'évangile, ce n'est pas celui-là. C'est le message qui est déjà présent dans l'Ancien Testament. L'évangile, ça parle de la venue de Jésus-Christ, certes. Mais le message de l'évangile est présent aussi dans le début de la Bible, dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne. Et la solution, c'est la seule solution, c'est de se reconnaître esclave. De dire, esclave, je sais que je suis dominé par tout un tas de puissances. Et je sais que c'est mon état et ça sera mon état jusqu'à la mort, jusqu'à ce que l'ennemi suprême, la mort, vienne m'assujettir totalement. Et lorsque les hommes et les femmes arrivent dans cette position de reconnaissance, de confession de leur état, c'est là où les choses commencent à changer. Et je lirai, ne tournez pas, mais ça se trouve dans Joël chapitre 2, au verset 12, après avoir décrit la dévastation qui allait se produire et qui s'était produite, eh bien Dieu dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Et vous trouvez ce genre de verset dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Vous trouvez ce message qui est au fond le message de l'Évangile, « Venez à moi », n'est-ce pas? Jésus disait ça, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Mais il disait aussi, « Venez à moi si vous avez soif, si vous avez soif d'entendre les paroles de Dieu, eh bien, venez à moi ». Et ce message, c'est le même dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, et c'est le même aujourd'hui. C'est « Venez à Jésus ». Parce que Jésus n'est pas un personnage qui est venu sur la terre il y a longtemps. Jésus n'est pas quelqu'un qui était très bien et il purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent et présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Voilà la première œuvre que Jésus va faire lorsque l'on rencontre Jésus. Et ce matin, ma question à chacun, c'est une question que je pose à moi-même. Ne pensez pas que je m'adresse aux autres et pas à moi-même. Mais la question que je me pose et que je vous pose ce matin, c'est est-ce que vous avez rencontré Jésus qui est rentré dans le temple de votre vie? Est-ce que vous pouvez dire oui un jour? Je sais que Jésus est rentré dans ma vie, il est rentré dans son temple. Et si c'est le cas, eh bien il est dit au verset 2, « Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ?» Et lorsque vous rencontrez Jésus, il doit y avoir cette œuvre qui fait que vous pliez le genou. Pas parce que vous êtes dans une église où on vous dit qu'il faut vous mettre à genoux, mais parce que la puissance de Jésus-Christ, la puissance de Dieu qui se manifeste dans nos vies, ne peut pas nous faire tenir debout. Nos idées, notre personnalité ne peut pas rester telle qu'elle est. Notre état, notre condition, nos problèmes, nos péchés ne peuvent pas rester debout. Il y a quelque chose qui plie le genou, qui fait qu'on reconnaît qu'on est esclave et qu'on a besoin d'être libéré, qu'on a besoin que Jésus soit le maître et que quelque chose qui fait que nos genoux se plient devant le maître, qui est le Christ. Et je suis très sceptique et très troublé lorsque j'entends des témoignages où les gens disent « Voilà, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je ne sais plus quand, ça fait longtemps ». Mais il y a eu un moment, il y a dû avoir un moment. Non, quand vous faites cette rencontre avec Jésus-Christ, eh bien, il y a quelque chose de radical qui se produit. Il y a quelque chose de profond. Comment l'aveugle qui a rencontré Jésus-Christ, qui ne connaissait rien de Jésus-Christ, parce qu'il a dit à Jésus, si vous lisez ça dans Jean chapitre 9, quand Jésus lui a dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il a dit « Et qui est-il afin que j'y croie ?» Il ne le connaissait pas, mais est-ce que vous croyez que lorsque Jésus est intervenu dans sa vie, eh bien, il a juste dit après, ben oui, je ne sais plus à quel moment, ça s'est passé progressivement. Non, il y a une rencontre radicale. Et je sais que peut-être certains vont défendre l'idée que ça peut être très progressif, mais il y a eu un moment, il y a dû avoir un moment où il y a une rencontre radicale avec Jésus-Christ qui a fait qu'on a fléchi, que toute notre personnalité, que tout notre caractère, notre façon de voir, notre éducation, notre sale caractère s'est plié devant Dieu, s'est plié devant Jésus-Christ. Qui pourra tenir? Qu'est-ce qui pourra tenir dans cette force que tu avais en tant qu'esclave de dire « je dominerai mon maître » Qu'est-ce qui peut tenir devant la puissance de Dieu, devant la révélation de Jésus-Christ, devant l'Évangile? Et s'il y a quelque chose qui résiste, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus-Christ comme il faut le rencontrer. S'il y a quelque chose qui résiste dans ma vie, c'est que je n'ai pas rencontré Jésus-Christ comme je devrais le rencontrer. Parce que c'est cette rencontre qui va faire plier le genou. Et si ce matin vous voulez faire cette rencontre avec Jésus-Christ, c'est l'occasion, ne laissez pas à plus tard. Parce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas maître notamment de votre avenir, vous êtes esclave de votre avenir. Vous devrez mourir le jour où vous devez mourir et vous ne savez pas quand. Vous devrez subir les conséquences qui vont se produire dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, même si vous n'avez rien voulu de tout cela, vous devrez les subir. Parce que vous n'êtes pas maître. Mais si vous voulez rencontrer Jésus-Christ ce matin, eh bien c'est l'occasion de pouvoir s'approcher de lui et de dire « Seigneur, je veux que te rencontrer de sorte à ce que je tombe à genoux. » Peut-être pas physiquement, mais à l'intérieur. Pour la première fois ou pour la énième fois, je tombe à genoux devant toi et je reconnais que je suis esclave, que j'ai besoin d'être libéré des puissances qui m'assujettissent, des puissances que je ne peux pas maîtriser. Oh, j'ai essayé de les maîtriser. Vous savez tous ce que ça veut dire de essayer de se contrôler. Mais je n'y arrive pas parce que je ne suis pas maître. Et Jésus va venir dans son temple. Le temple, comme Grégoire l'a dit la semaine dernière, le temple de Dieu, c'est l'Église, c'est nous-mêmes, c'est nous. Il va rentrer dans notre vie et faire cette œuvre qui plie le genou. Je crois réellement à cela. Je crois de tout mon cœur, parce que ça a été le cas dans ma vie. Il y a encore des choses qui doivent fléchir dans ma vie. Mais quand j'ai laissé le Seigneur rentrer dans un domaine de ma vie, eh bien les choses ont fléchi immédiatement. La puissance du péché s'est éteinte. C'est ça la puissance de Dieu, n'est-ce pas, la puissance de l'Évangile? Parce que si Dieu devait dire à Caïn, le péché couche à ta porte et toi domines sur lui, l'apôtre Paul pouvait écrire dans Romains 6, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Et les évangéliques ont essayé de tourner ce verset différemment pour dire, ça veut, il n'a pas voulu dire ça, il va falloir l'interpréter autrement, parce que le péché a toujours du pouvoir. Non, l'apôtre Paul a écrit que le péché n'a plus de pouvoir, il n'a plus l'autorité sur votre vie. Si vous êtes complètement à Christ, c'est-à-dire que vous avez la puissance de pouvoir dire non au péché et de pouvoir choisir Jésus-Christ. Donc la première œuvre dans la rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ, c'est qu'il y a quelque chose qui cède, on reconnaît notre position de pécheur. Et c'est ça, étrangement, ce qu'on découvre après, que c'est là où on voit que Dieu nous rend maître avec lui. Quand on reconnaît qu'on est pécheur, quand on plie le genou, quand on s'humilie devant Dieu, eh bien c'est là où on devient maître. Mais on ne le fait pas pour devenir maître, mais c'est là où Dieu nous donne la maîtrise du corps. Les gens très très forts de notre société les gens qui sont des fortes personnalités, qui arrivent à faire des choses incroyables, ils n'arrivent pas à contrôler leur propre corps parce qu'ils sont assujettis. Ils n'arrivent pas à se contrôler eux-mêmes. Ils sont esclaves d'eux-mêmes, ils sont esclaves de leur corps. Et quand on fléchit le genou, quand on se donne à Jésus, quand on dit au Seigneur, voilà, je te donne ma vie, et je le crois réellement, je le dis sérieusement, eh bien, c'est là où les choses fléchissent, où on reconnaît qu'on est pécheur, et où on devient maître, sans s'en rendre compte, de notre corps, de notre vie. La deuxième œuvre, toujours dans le chapitre 3 de Malachie, eh bien, on la trouve au verset 10, alors que Dieu incite son peuple à faire appel à lui. Il dit au milieu du verset 10, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Quel merveilleux message. Dans Joël, qu'on a mentionné tout à l'heure, il a parlé de la repentance, de revenir à Dieu. Il a dit, voilà, si vous revenez, je vous donnerai, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. On viendra sur ce point-là. Mais il a dit, je vous donnerai la pluie de l'arrière-saison. Je vous donnerai cette bénédiction, cette eau dont vous avez besoin pour vos cultures. Je vous la donnerai. Et ici, il dit, vous verrez que si vous me mettez à l'épreuve, vous verrez que j'ouvre pour vous les écluses des cieux. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Est-ce que vous êtes prêt à dire, Seigneur, dans ma vie, il y a un grand impossible. Il y a quelque chose qui est marqué sur mon front. Il y a quelque chose qui est gravé dans mon cœur et dans ma vie. Et ce message, c'est écrit impossible. Impossible de changer. Impossible de faire la volonté de Dieu, impossible de dominer ce problème dans ma vie. Eh bien, que dit Dieu ? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Parce que Dieu est tout-puissant, et c'est ça qui fait que beaucoup de gens sur la terre peuvent proclamer que Dieu existe avec une conviction extraordinaire. Parce qu'ils ont découvert la puissance de Dieu et combien Dieu a déversé cette eau abondante dans leur vie qui les a purifiés. Parce que quand ils rentrent, on l'a lu tout à l'heure, dans le temple, ils purifient. Et si vous avez besoin de purification ce matin, demandez à Dieu. Dites à Dieu, je te mets à l'épreuve, tu as dit que tu pouvais me changer, tu as dit que tu pouvais me purifier. Alors fais-le, ouvre les écluses des cieux parce que j'ai besoin qu'il y ait abondance d'eau qui coule dans ma vie pour me laver. C'est ça que Dieu veut entendre. Pas des gens qui disent « je suis juste », pas des gens qui disent « j'ai pas fait trop de mal » ou bien « tu dois être assez content de moi parce que je suis quelqu'un de religieux », mais des gens qui disent « j'ai besoin d'être lavé fondamentalement ». J'ai besoin qu'à l'intérieur tu fasses ton œuvre. Eh bien, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction, qu'il va ouvrir les écluses des cieux et qu'il va vous donner sa bénédiction. Parce que Dieu bénit son peuple, il bénit ceux qui s'adressent à lui, ceux qui demandent à lui qu'il fasse l'impossible. Et il y a une puissance dans ces écluses des cieux qui s'ouvrent, dans l'eau qui coule, c'est que la force de cette eau qui va couler dans votre vie va effacer ce message impossible et va le remplacer par un autre message qui est la parole de Dieu. À Dieu, tout est possible. Et c'est ça qui sera le témoignage de votre vie, écrite dans votre vie, sur votre visage, sur votre cœur, dans vos comportements, dans vos paroles. À Dieu, tout est possible. Je crois que Dieu peut faire l'impossible. Pourquoi je le crois? Parce qu'il l'a fait dans ma vie. Et quand on peut dire ça à quelqu'un, je sais que Dieu peut agir dans ta situation parce qu'il l'a fait dans la mienne. Et que vous avez le témoignage cohérent, n'est-ce pas? pas le témoignage verbal juste, mais le témoignage comportemental, tout l'état d'esprit qu'il faut pour rendre un témoignage vrai, eh bien, les gens seront touchés par ce message. Dieu a dit donc, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Le Seigneur a agi dans cette région au XVIe siècle. Il y avait des conversions. Il y avait des hommes et des femmes qui se sont tournés vers la parole de Dieu, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont abandonné l'idolâtrie pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils ont été massacrés, ils ont été persécutés, ils ont dû fuir ou être tués. Et le message de l'Évangile est revenu dans cette région. Il est revenu dans cette ville et c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu que les paroles de Dieu peuvent être prononcées encore. C'est un sens extrêmement profond qu'on ne peut pas saisir. Mais il faut mettre Dieu à l'épreuve. Et une des premières prédications qui a eu lieu ici au XXe siècle à Hazebrouck était précisément sur « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». Et il y a une femme qui a assisté là, qui ne connaissait pas Dieu, qui a dit « Moi, je vais le faire ». Elle est rentrée chez elle, elle a mis Dieu à l'épreuve, elle lui a demandé quelque chose d'impossible. Et Dieu a répondu. Elle s'est convertie, elle et son mari. Et ils sont devenus des chrétiens qui ont servi Dieu jusqu'à leur mort. Ils ont quitté la région d'Hazebrouck après, mais ils ont servi Dieu jusqu'à leur mort. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ce message, au travers des siècles, est toujours un message vrai. Toujours un message puissant et un message d'actualité. Il n'est pas réservé pour certains. Il est réservé à tout être qui fait confiance à Dieu. Après, Dieu dit, vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et au verset 11, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Je menacerai celui qui dévore. Parce que vous avez été dévoré. Parce que votre enfance a été dévorée peut-être. Parce que votre innocence a été dévorée. Parce que votre espérance, vos projets de vie ont été dévorés, détruits. Eh bien, il y a l'espoir dans ce message. Parce que Dieu va restaurer, va restituer. Dans Joël, il a dit, vous remplacerez les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et peut-être ce matin, vous avez l'impression que votre vie a été détruite par les circonstances, pas forcément par votre faute. Peut-être c'est par vos parents. Mais si on va voir les parents, eh bien, s'ils ont agi comme ça à l'égard des enfants, c'est parce qu'eux ont été victimes de leurs propres parents. Et on remonte comme ça de génération en génération. Et la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a des dégâts. Et c'est tout ce qu'on peut constater. Mais la puissance de Dieu et l'œuvre de Dieu dans une vie, c'est de restituer les années, restituer les années qui ont été détruites. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et ici, je menacerai celui qui dévore. Tout ce qui dévore ta vie, les pensées qui te rongent, les réactions qui rongent ta vie, qui te détruisent. Eh bien, Jésus, quand il vient dans la vie de quelqu'un, eh bien, il vient toucher cela et il vient remplacer toute cette destruction par la bénédiction. Il vient faire en sorte qu'on puisse porter du fruit. Et ça, c'est la suite du verset. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Voilà la puissance de Jésus dans une vie, c'est de faire en sorte que vous pouvez commencer à porter du fruit. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire par vous-même. Ce n'est pas quelque chose que vous allez devoir faire en disant « mais je ne pourrai pas », c'est que vous allez commencer à porter du fruit. La vigne porte du raisin, mais elle n'a aucun effort à faire. Elle est vigne, c'est tout, elle est maître. Parce que Dieu fait cette œuvre merveilleuse quand vous reconnaissez que vous êtes esclave, de vous relever et de vous donner la maîtrise de ce qu'il veut. C'est-à-dire que les choses deviennent naturelles. Le fait de porter du fruit vient quelque chose de naturel, devient quelque chose que l'on fait parce qu'on a une nouvelle nature. Et vous lisez le fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22. Dieu vous demandera un jour, est-ce que vous avez lu Galates 5, 22, vous qui avez la Bible, vous qui avez entendu ce verset plein de fois, combien de temps avez-vous passé sous ce verset à réfléchir? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance ou la maîtrise de soi, la fidélité, la douceur. Est-ce que tous ces constituants de l'esprit du fruit de l'Esprit de Dieu sont portés par nos vies, sont maîtrisés sans faire le moindre effort? Les gens qui font des efforts pour produire ce fruit ou pour donner l'impression qu'ils produisent ce fruit se fatiguent énormément parce qu'ils doivent faire très attention à ce qu'ils font devant les autres chrétiens. Et ça les fatigue beaucoup. Ils doivent contrôler telle réaction, contrôler tel comportement pour ne pas choquer un frère et une sœur. Et quand ils sont chez eux, ils ont la liberté de ne pas. Ils choquent personne. Et c'est là où on voit que ce n'est pas le fruit qui est porté. Mais Jésus va nous donner cette nature qui va nous permettre de maîtriser sans effort ce que Dieu veut pour l'humanité, ce que Dieu voulait à l'origine pour l'humanité, de pouvoir porter ce fruit. La vigne ne sera pas stérile, elle sera fertile, elle va pouvoir porter du fruit. Est-ce que vous voulez ce matin porter du fruit? Est-ce que ce matin vous voulez faire cette rencontre avec Jésus qui purifie les cœurs, qui transforme les vies? Si vous donnez à Jésus-Christ, c'est un engagement sérieux, c'est un engagement solennel. Ça veut dire que vous lui donnez votre vie entière pour qu'il la transforme. Et Dieu le verra, il verra le sérieux de votre demande. Voilà, que Dieu bénisse sa parole.